Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Radio Diwa, bonjour. Ici, c'est pour l'interview. Donc, sur Radio Diwa, que vous pouvez écouter en fréquence FM sur 107.5 ou alors l'émission est podcastée sur le site www.rdwa.fr. Et aujourd'hui, nous accueillons Linette Guéron-Hélucine et Marie Pouillaude. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un ouvrage que vous avez publié toutes les deux, qui s'appelle « L'Odyssée off de la comtesse de Die ».
Alors, il vient de paraître et on en est très, très heureuse parce que c'était un trajet au long cours, en fait. Hein. C'est le travail de 2 ans là, qu'on tient entre les mains depuis hier.
On peut peut-être dire avant qu'on se connaît depuis 30 ans, Marie et moi. Moi, je suis arrivée dans le Diwa plus récemment, il y a 6 ans. Et on a eu l'idée de faire un livre sur Die, un livre qui soit un peu délirant, décalé.
On avait envie de s'amuser.
On avait vraiment envie de s'amuser et c'est ce qui s'est produit. On s'est bien amusé à faire ce livre. On a pensé à des personnages de Die à faire venir dans l'histoire. Et naturellement, il y a Richard Morin qui est arrivé en premier, qui a appelé la comtesse de Die, et ce qui a créé une sorte de courant d'air dans l'histoire. Et d'autres personnages historiques sont arrivés, d'autres légendes aussi. Au fur et à mesure de l'histoire, la comtesse de Die rencontre ces personnages. Elle appelle aussi son amant qui ne vient pas, qui l'a fait traîner. Et elle change en rencontrant tous ces personnages historiques et aussi les Diwa d'aujourd'hui. Il y a 16 personnages de Die qu'on peut reconnaître. Alors c'est assez extraordinaire parce que les illustrations de Marie sont des fictions, c'est des personnages de fiction, mais on peut les reconnaître. Et pareil pour le texte, c'est un texte qui raconte une histoire un peu ouf, un peu off. Mais elle est basée quand même sur des documents historiques, sur ce que nous a raconté Jacques Planchon, par exemple, le conservateur du musée de Die, qui nous a inspiré d'autres personnages qu'on ne connaissait pas, comme la reine Carétène, qui est une reine burgonde, et d'autres personnages encore, qui nous a permis d'étoffer l'histoire. Il faut dire aussi qu'on a travaillé en complicité avec l'éditrice de ce livre, qui s'appelle Catherine Flamand, au comptoir d'édition, et que chaque fois que j'écrivais quelque chose, je le lisais à Marie, qui me donnait un retour, et chaque fois qu'elle faisait une illustration, je lui donnais aussi un retour. Et je pense que Marie m'a permis de trouver quelque chose de plus ordonné, de me ramener plus vers quelque chose de raisonnable,
plus structuré,
tandis
ouais.
que moi, je la poussais vers plus de délire.
Voilà. On a eu envie de s'amuser, on a eu envie de créer des courants d'air dans notre bonne ville de Die. Et donc, on a ouvert des portes. Et en fait, sont arrivés par ces portes un petit peu secrètes, un petit peu magiques, toutes sortes de personnages. Donc, au début, la comtesse de Die. Et cette comtesse de Die, elle a été très présente. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'avant de l'illustrer, même pendant que je crée son personnage, j'en rêvais la nuit. Donc, il y a eu une espèce de magie qui s'est opérée. Et les portes du temps se sont ouvertes toutes grandes parce qu'en fait, elle a été à l'initiative de ce passage qui arrive du XIIe siècle jusqu'à nous. Mais il y a d'autres personnages qui se sont engouffrés dans la brèche. Hein, comme disait Linette, des périodes de la période romaine s'est ouverte, les protestants, les...
L'évêque
Saint-Marcel, voilà. Alors c'est le temps qui s'est ouvert.
Un gladiateur.
Mais c'est aussi la ville elle-même, parce qu'en fait, la ville qu'on connaît, nous, en surface, on a fait apparaître ses profondeurs. Et donc c'est aussi la Die un peu souterraine, un peu secrète, qui apparaît dans le livre.
Mais c'est une ville imaginaire aussi.
Oui.
Où il y a des rêves, des cauchemars, les personnages historiques qui viennent de ces profondeurs-là.
Alors, on sait qu'il y a des passages réels, hein, des souterrains réels sous-dits, mais alors on a un petit peu amplifié cette connaissance, ou plutôt ces on-dits, hein, toutes ces rumeurs qui circulent sur les portes qui ouvrent dans le sous-sol et tous ces passages, par exemple le passage qu'empruntait la belle Justine. Nous, on a juste amplifié, magnifié ça pour que ce dit souterrain soit une ouverture sur les rêves, les cauchemars, les personnages un peu mystérieux et toutes les étapes de l'histoire.
Et à propos d'amplifier et de magnifier, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur la comtesse de Die, avec qui on n'a pas la même relation, Marie et moi. Marie a dit tout à l'heure qu'elle en avait rêvé. Et moi, je me suis surtout intéressée à ce que les gens imaginent sur cette personne, ce personnage qui est peut-être imaginaire. Un historien du Moyen-Âge a dit que c'est peut-être une comtesse imaginaire. Peut-être même c'est un homme qui a écrit les poèmes qu'on a conservés, les chansons qu'on a conservées. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est devenu une muse dès le 19e siècle. Les poètes qui faisaient partie des deux associations, La Cigale et Le Félibrige, donc les Cigaliers et les Félibres, ont décidé que cette comtesse était une muse et ont fait ériger sa statue au square de la comtesse. Et là, elle est devenue quelqu'un d'autre. Et ensuite, plein de gens ont imaginé des choses sur cette comtesse dont on ne connaît rien. On ne connaît pas son visage. La statue Place de la Comtesse ne la représente pas. On ne sait pas si elle est du XIIe ou du XIIIe siècle. On ne sait absolument rien d'elle. On ne connaît même pas son prénom.
À ma connaissance, j'ai vu une gravure dans un style d'enluminure. La présentant, c'est une gravure du XIIIe, je pense, XIIIe siècle. C'est la seule image qu'on ait d'elle.
Mais on ne connaît.
Et elle est assez graphique, je dirais, et pas très prononcée au niveau descriptif.
Mais on n'a aucune certitude sur son apparence, ni son origine.
Voilà, aucunement.
Et le seul document qui en parle, c'est une vida, c'est un écrit anonyme où on dit qu'elle était amoureuse de Rimbaud d'Orange, mais on ne sait pas de quel Rimbaud d'Orange il s'agit. Et on ne sait pas si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Voilà.
La Linette, elle s'est un petit peu plongée dans l'imaginaire collectif, en fait. Hein. Tout ce que les gens pensent, imaginent, rêvent autour de la comtesse de Die. Parce qu'elle elle est un peu, comment dire, comme une âme qui flotte au-dessus de Die, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent, qui connaissent un ou deux de ses poèmes. Elle est un peu comme une espèce de marraine. De Die et du Diwa, puis sa présence au square de la comtesse avec, sous forme de statue, elle est belle, elle est poétique, elle nous fait rêver, elle est au milieu de l'eau, en fait elle ruisselle d'eau, elle est toute proche du Glandas, elle est prise par la neige et par la glace l'hiver, les enfants jouent autour et elle fait vraiment partie de la vie de Die au quotidien.
Puis maintenant, la place de la comtesse est devenue la place de la contestation. Alors, elle a encore un autre destin.
Et alors, quelle idée vous a vraiment poussé à écrire sur elle par ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé, au fond, l'une et l'autre, à s'atteler à ce livre?
Parce que la comtesse de Die est un personnage de Die. Et on voulait écrire sur la ville, donc on a écrit sur les personnages réels, imaginaires et historiques.
Est-ce qu'elle est emblématique pour vous, quelque part ?
Oui, pour moi, c'est une présence indicible, un peu précieuse, qui flotte au-dessus de la ville. Ouais. Moi, je la sens très présente, et puis dans l'esprit des gens aussi. Hein.
Et pour moi, c'est surtout c'est un peu un prétexte. Et un prétexte à parler de Die. Et des Diwa, car il y a donc 16 personnages qui sont dans le livre, que Marie a représenté, que moi j'ai interviewé longuement. Je leur ai ensuite soumis leur interview et j'ai essayé de comprendre quels étaient leurs rêves, leurs fantasmes, qu'est-ce qui les motive dans la vie. Et parfois c'était un peu difficile parce que ce n'était pas forcément mes copains. Donc c'était un exercice pas facile quand même.
Et ce sont des personnes que l'on pourrait croiser dans la rue, ou Absolument. Alors ce sont des personnes aussi qui vont laisser une empreinte sur la ville de par leur fonction ou...
Oui, c'est des personnes qui ont un lien avec le public très souvent. Par exemple, il y a Odile Ruiz qui a une maison d'hôtes. Olivier Gonny qui avait des attelages, Jérôme Munoz qui était maraîcher, Julien et Hicham, des musiciens et poètes, Viviane Scherer qui est une masseuse.
Et sculptrice.
Et sculptrice. Mache Laurier, donc de son nom de poète qui s'appelle Richard Morin en fait. Yvan Chartier qui a des bateaux, des canoës. André Breton qui est un historien autodidacte et Marianne et Constance qui ont essayé de faire un pôle textile à la bonneterie. Et on peut dire aussi qu'on a représenté plusieurs endroits de Die.
Alors attends, on va peut-être parler encore des personnages parce que c'est des personnages emblématiques ou du quotidien effectivement qu'on croise à Die et qui, tu parlais de laisser une empreinte sur la ville. Oui, je pense que tous à leur façon ont laissé ou laisseront une empreinte. C'est des personnages qu'on peut croiser dans la rue et des personnages qui vivent à Die et qui apportent quelque chose. Alors ces personnages-là, moi je les ai représentés, c'est-à-dire que je suis allée les voir. Donc Linette les a interviewés longuement, elle a cherché à évoquer leur vie, leur délire aussi. Hein. Et moi je suis allée les voir avec mon appareil photo, mais surtout avec mon papier et mes crayons pour les dessiner. Et pour moi c'était important, avant d'attaquer le travail sur les collages, d'avoir une représentation photographiée ou même avant tout dessinée. Parce que quand je les dessine, les gens, je les regarde vraiment très attentivement. Voilà, et donc j'ai l'impression de rentrer un peu dans dans ce qui fait leur être profond. Hein. Et c'est toujours très excitant, très intéressant de chercher leur ressemblance. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps à représenter ces personnes. Je les ai montrées au fur et à mesure à Linette d'abord, et puis à eux. Je suis pratiquement arrivée à leur montrer à tous le portrait que j'avais fait d'eux, et je voulais avoir leur accord, et puis évidemment l'accord de Linette aussi. Hein. Si Linette me disait « Oh ben oui, je vois qui c'est », tout de suite, c'est bon quoi. Alors il y en a qui m'ont demandé plus de temps, il y en a pour lesquels ça a été évident, et puis d'autres qui m'ont pris plus de temps. Il a fallu que je revienne à l'ouvrage en fait.
Qu'est-ce qui vous a fait penser que ces personnes que vous avez contactées ou côtoyées, qu'est-ce qui vous amène à les amener auprès de Béatrice de Dix?
Justement, c'est parce qu'ils ont une importance dans la ville, qu'ils ont un contact avec le public, qu'ils sont assez connus, et ils sont amenés à rencontrer la comtesse qui arrive du XIIe siècle dans l'histoire. Et
ils ont tous à voir quelque chose avec ce qu'elle est, en fait. Hein. Soit que ce sont des personnages de sexe féminin, soit que ce sont des personnages qui sont des artistes, soit que ce sont des personnages qui ont un rapport sensible à la ville. Hein.
Ou sensible à la nature.
Ou à la nature.
Parce qu'il y a un rapport avec les éléments. Il y a d'abord l'entrée dans la ville. Ensuite, ils arrivent dans les souterrains, dans une ville mystérieuse, à la fois réelle et de fiction. Ensuite, ils sont sur la Drôme et ils sont avec Yvan, donc qui est très lié à l'élément eau. Puis ils arrivent dans la ville. J'imagine que la cathédrale a été entièrement tricotée et l'école Chabestan aussi. En reprenant ce qui s'est passé à la cathédrale il y a quelque temps, Marianne avait incité les gens à tricoter les panneaux de circulation et les arbres. Et ensuite, ils arrivent à la bonneterie. Et le quartier des usines est évoqué et représenté.
Il y a la place aussi du Mazel. La
porte Saint-Marcel. Puis, il y a les jardins du Perrier. Et là, ils rencontrent Jérôme Munoz, qui, pour ce livre, a accepté qu'on représente un jardin médiéval, qu'il n'a jamais vu, bien évidemment. Et on voit cet élément terre, plantes, nature. Au fur et à mesure, la comtesse change. Elle remet en question sa condition de femme au Moyen-Âge et aussi sa poésie en rencontrant Hicham et Julien. Elle dit « Ah, j'aurais peut-être pu hurler, mais avec un luth, c'était difficile. » En rencontrant Hicham, qui était un poète hurleur. Et elle s'intéresse à la musique électronique. Elle a envie de rester dans notre siècle. C'est ce qu'elle va faire. Elle va rester dans notre siècle. Mais on ne va pas vous raconter toute l'histoire quand même.
Mais il y a une confrontation effectivement entre cette femme du XIIe siècle, sa façon d'être au monde, sa façon d'être artiste, et puis les Diwas d'aujourd'hui. En fait, elle se rend compte que les Diwas d'aujourd'hui, finalement, vivent un peu dans le vacarme, dans la précipitation, même si ce n'est pas ce qui saute aux yeux quand on arrive à dire. Mais elle se rend compte aussi qu'ils n'ont pas le temps de se dire leur amour ou de l'écrire. Et elle va les aider. En commençant par le gladiateur qu'elle a rencontré dans les sous-sols de Die, elle va les aider à se poser et à trouver les mots justes pour parler d'amour. Elle va être un peu écrivain public, en fait. Et puis elle, en retour, elle est aussi transformée dans sa façon de chanter. Elle va exprimer davantage ses émotions. Elle va goûter à d'autres formes de musique. Et donc, il y a un vrai échange entre elle et Lady Hua. Et c'est vrai qu'à la fin, elle va avoir envie de rester, parce que ce monde, même s'il ne correspond pas à ce qu'elle a pu connaître, elle, au XIIe siècle, ce monde l'intéresse, la captive et lui donne des possibilités de transformation.
Ce sont des pensées que vous énumérez d'après une réflexion de sa vie, ou alors est-ce que c'est vous que l'on pourrait percevoir à travers son personnage?
C'est une fiction totale. Hein. Si tu veux, il y a à la fois un côté documentaire sur le dit qu'on connaît, sur ses habitants, mais aussi un côté complètement fictif. Hein.
Mais la fiction, c'est quoi?
La fiction, c'est notre fantaisie personnelle.
De toute façon, comme je te disais, le personnage de la comtesse de Die, on ne le connaît pas du tout. Ce qui m'arrange, moi. Parce qu'on peut en faire ce qu'on veut, ce personnage-là.
Et est-ce que vous avez un de ces textes, justement, ici?
Oui. De nos textes, donc.
Parce que là, j'ai la connaissance, un texte par rapport à une histoire d'amour, c'est tout ce que je connais d'elle, hein, de l'autrice de Die.
On a quatre poèmes qui sont peut-être d'elle, et un qui est peut-être d'elle aussi. Avec
moi, j'avais la certitude d'un seul texte d'elle, après d'autres moins
évidents. Et comme je te disais, on n'est pas sûr qu'il s'agisse des poèmes écrits par une comtesse de Die.
Ils sont connus comme ça.
Ils sont connus comme ça.
Mais il y a beaucoup d'incertitudes.
Ouais. Oui.
D'accord. Et vous en avez un là à lire, par exemple?
Un poème?
Ce qu'on peut lire, c'est des passages de notre livre.
On peut lire son vrai poème, en fait. Hein.
Sinon, il y a des poèmes d'elle dans le livre. Mais...
Oui, c'est pas mal de lire aussi un vrai poème. C'est beau. Moi, ce que je voulais dire, si tu veux, sur le côté, parce qu'on parle de documentaire, on parle de fiction, mais Lina l'a dit un petit peu, mais on a travaillé aussi sur le côté historique, réel de la ville de Die, tu vois. On a passé beaucoup, beaucoup de temps avec Jacques Planchon du musée, et il nous a vraiment, il a nourri notre réflexion et notre connaissance sur la ville. Donc, si tu veux, il y a tout ça qui s'interpénètre, qui se mélange dans notre travail. C'est la fiction, notre fantaisie, nos rêves, ceux des Diwas, la réalité et l'histoire. C'est vraiment le mélange de tout ça.
Alors Marie, je suppose que tu veux bien nous lire un passage de ton livre.
Oui.
Ou de votre livre, pardon.
Oui. Donc je précise que c'est l'écriture de Linette. Hein. Donc c'est Linette qui a écrit le texte et c'est moi qui ai fait les illustrations. Alors au passage, j'aurais quand même précisé que c'est un travail assez considérable parce que c'est un travail de 2 ans et Linette a écrit un texte qui fait 25 pages et qui a entrelacé à mes illustrations. À mes illustrations, il y en a 92, donc c'est un livre, quand on le tient dans les mains, il a un certain poids et on s'est vraiment investi dedans. Alors le texte que je vais lire, c'est Linette, bien sûr, donc il a écrit. Et on est à peu près au milieu du livre, en fait. Hein. La comtesse a déjà fait ce voyage souterrain, ce voyage au bord de la Drôme. Elle a rencontré plusieurs Diwas. Et puis là, on est dans un moment où elle est au bord de la Méros. Et en fait, elle vient d'avoir un moment de nostalgie et de presque de tristesse, on peut dire, hein, parce qu'elle pense à son amant et il lui semble avoir vu un reflet et des traces de sa présence dans l'eau. Et donc Valentina, qui est un de nos personnages, arrive et va lui parler. Béatrix, je suis Valentina et je te tutoie parce que je parle non à la comtesse de Die, mais à la femme troubadour. À ta conscience de Trobaïritz, à la poétesse, à la créatrice. Béatrix, respire, écoute, laisse dériver vers la Drôme les oripeaux de Rimbaud d'Orange. Connais-tu bien sa part d'ombre? Prends ton propre chemin, mais suis-moi d'abord, c'est par ici.
Alors, ils arrivent au jardin du Perrier, où la comtesse va avoir envie de trouver les ingrédients qu'il lui faut pour préparer un festin médiéval. Et vont arriver Machelaurier et Jérôme. Je vois venir Jérôme le maraîcher. Bonjour l'ami. J'ai accompagné la comtesse pour qu'elle trouve les ingrédients du festin qui s'annonce. Nous y sommes tous conviés. Je vais vous dire un secret. Malgré les apparences, elle n'est ni de marbre, ni de bronze, mais de chair et de poésie.
Bonjour comtesse, bienvenue au jardin du Perrier. Avec la bardane, l'hysope et la livèche, vous reconnaîtrez ici dans mon jardin médiéval les saveurs que vous aimez. Comment trouvez-vous notre siècle ?
Je suis venue dans votre époque à l'invitation de Machelaurier qui espère offrir une seconde vie à ma légende. J'ai relevé le défi de Valentina. Je chanterai ce que chanter voudrait. Votre siècle ? Pour moi, il est à la fois sans odeur, presque fade, et traversé de senteurs inconnues, surprenantes. Il dissimule les étoiles tout en saturant de lumière la ville. Et vous laisse-t-il écrire des poèmes, des lettres d'amour ? Dans votre modernité étrangement accélérée, le désir n'a pas le temps de se former. Et il faut déjà le réaliser. Et la terre, qu'est-elle devenue ?
Elle est ici, la terre.
Alors, un peu plus tard, on retrouve la comtesse au jardin du Perrier avec Machelaurier et Hicham. L'histoire a égaré mon identité. Un chant me vient que je voudrais slammer, hurler ou chuchoter. On se demande encore de qui je suis la fille, de qui je suis la mère, si j'ai vécu à Die. Mais je suis vraie, comme toutes les légendes. C'est un métier. J'ai mes responsabilités de comtesse et d'amante. Et de femmes troubadours, soumises tour à tour à la pesanteur ou à la légèreté de vos rêves. Je parle beaucoup avec la belle Justine, Phyllis de la Tour du Pin de la Charse et Ondine. Nous sommes peu nombreuses aux alentours. Entre légendes, on se fréquente. Nous ne désirons plus être statufiées ni auréolées.
Les légendes sont fatiguées d'être figées dans une image de muse, de fable populaire ou d'héroïne.
On m'appelle comtesse. C'est un titre que j'ai ramené de mon époque comme une forme vide qui sent la poussière. Je ne me sens pas plus noble que Sylvanus qui m'a demandé de l'aide pour déclarer son amour à son amie Sylvia. Grâce à lui, j'ai compris que j'étais apparue dans votre siècle pour écrire des lettres d'amour. Et pas seulement pour les gladiateurs. Alors, cessez, je vous prie, de dire comtesse. Mon prénom est Béatrix.
Béatrix, vous goûtez à un vent de liberté, mouvante et émouvante. Vous chantez votre vie et la réinventez. Bravo pour ce solo improvisé, mais vous n'avez pas tellement hurlé ?
Je suis une hurleuse débutante. Ensuite, la comtesse retrouve Rimbaud d'Orange qui l'a emmené dans la montagne de Bray. On les retrouve le lendemain matin.
Tu vois bien que ce n'est pas un songe. Maintenant, l'aube se pose doucement sur tes yeux de rosée. Des feuilles d'automne ornent tes cheveux comme autant de chansons. J'ai redessiné notre réalité dans la chair de la montagne. Et j'ai ensemencé de poèmes la peau de la terre nue jusqu'à faire crier les mondes sonores. Notre désir s'est gravé dans la nuit minérale.
Mes fleurs, une émotion d'ailes d'oiseaux déployées, nos corps d'hommes et de femmes accordés au corps tiède de la roche, aux ombres bruissantes de la forêt. Nous avons inventé les rimes de nos vies et leurs mélodies.
Nous tutoyons l'éternité, lovés dans l'immensité du roc et les plumets roses des minuscules fleurs de trèfle. Et mon cœur devient clair. Je ne suis pas de ce siècle, mais J'aime cet instant rare et minéral. La montagne, légère comme une bulle, m'a trouvé, moi, le trouveur, le poète, le grand seigneur d'Orange et de Courthézon. J'en suis tout enivré.
Elle offre à ton âme de loup bleu et à mon âme de rebelle ce moment suspendu.
Merci. Et Homère, dans cette histoire, qu'en est-il ?
À propos de l'Odyssée ?
Oui.
On a voulu emprunter...
Je parlais d'Homère.
Oui, pour nous, l'Odyssée, ça évoque le voyage, la traversée, en fait, hein, la traversée des siècles.
C'est une traversée, c'est même une traversée initiatique, on peut dire, dans un labyrinthe. Le labyrinthe qui est dit à travers les labyrinthes souterrains, les rues de la ville, les méandres de la Drôme, les méandres du passé industriel, et finalement, les jardins du Perrier.
Et le tourisme, aujourd'hui, qu'est-ce que ça ferait pour elle ? Dit ne vit pratiquement que de tourisme aujourd'hui, maintenant, on peut dire. Qu'est-ce que ça ferait, justement, qu'elle soit là, au milieu des touristes ? Ça provoquerait quoi en elle, par exemple ?
Dans l'histoire, c'est devenu un écrivaine publique. Donc je suppose qu'elle écrirait des lettres d'amour pour les touristes.
Oui, on peut imaginer qu'elle ait une curiosité. Tu vois la dernière image, on la voit attablée à la Boulangerie Rouge, qui est quand même un des hauts lieux de la vie d'Oise. Elle s'est transformée, donc on le voit dans son apparence. Le voile vert qu'elle avait au début de l'histoire et qu'elle a sur sa statue, hein, donc a disparu pour faire place à des fleurs et à des brins d'herbe qui se sont entremêlés dans ses cheveux. Sa robe s'est raccourcie, elle a mis des bijoux, elle a un escarpin et un pied nu, elle a à côté d'elle un panier plein de légumes. Elle est attablée avec une lettre d'amour qu'elle est en train d'écrire et puis avec un croissant et une tasse de café. Donc on peut l'imaginer assise avec l'humeur badine comme ça à la terrasse d'un café et puis avec une curiosité pour les habitants de Die mais aussi pour les touristes. Hein. Effectivement, comme dit Linette, elle pourrait tout à fait écrire une lettre d'amour, peut-être pas en hollandais, mais pour un hollandais ou pour quelqu'un de passage.
Et Béatrix était issue de la noblesse ou c'était une personne du peuple qui s'est retrouvée comtesse par alliance.
On ne sait rien d'elle.
On ne savait pas.
Mais si elle a existé, c'était certainement une noble. Et son amant aussi était un noble.
Parce que, à mon souvenir, elle venait de Marseille, hein, je crois, cette personne, Béatrix de Die. J'avais lu des textes là-dessus. Et qu'elle est arrivée dans le Diwa.
Ouais, moi, j'ai jamais entendu dire ça, mais c'est pas grave parce qu'on peut imaginer toutes sortes de choses.
L'important,
ouais,
c'est de Marseille,
peut venir de Marseille,
ou de
oui,
Tourcoing, oui, ça n'a pas d'importance.
Oui, oui. L'important, c'est son art, je dirais, en fait. Hein. C'est sa volonté et son souhait et son expression, sa façon d'être au monde, c'est d'écrire. Hein. D'écrire de la chanson, d'écrire de la musique, d'écrire l'amour, en fait. C'est ça qui fait l'essence même de sa vie, en fait.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que Die est en quelque sorte une terre d'accueil. Et ce n'est pas d'hier, puisque, à mon souvenir, justement, par rapport à la biographie de Béatrix de Die, il me semblait qu'elle venait de Marseille et qu'elle s'était installée ici, dans le Diwa, après.
C'est possible, hein, pourquoi pas, après tout.
Il y a beaucoup de pistes sur cette Béatrix. Comme je te disais tout à l'heure, on peut supposer qu'elle venait du XIIe siècle ou bien du XIIIe siècle, qu'elle s'appelait Béatrix ou bien Alix. Il y a beaucoup d'hypothèses, donc il n'y en a aucune qui peut être privilégiée. Et on ne sait pas vraiment de quelle ville elle venait.
Mais si tu veux, tu vois, ce fait, elle l'évoque, ça, le fait qu'elle soit comtesse. Et c'est comme si c'était des oripeaux dont elle voulait se débarrasser, en fait. Parce qu'elle ne veut plus être comtesse, elle veut être une simple femme, en fait. Hein. Ça ne compte plus pour elle, cet aspect de femme noble. Elle veut changer sa vie. Et puis, voilà. Par contre, un beau d'Orange, qui est son amant, lui, il va retourner dans le XIIe siècle. Et lui est attaché à ce qui a fait tout ce qui fait sa nature, en fait, tout ce qui fait sa vie.
C'est un chevalier.
C'est un chevalier.
C'est un homme de poésie et un homme d'armes aussi.
Oui.
Qui faisait sûrement les croisades.
Et elle accepte de se défaire de beaucoup de choses. Hein, et en même temps, elle apporte au Diwa ce qu'elle est profondément.
Et on ne sait rien du tout d'elle, en fait.
Non.
Jacques Planchon, par exemple, n'a trouvé aucune trace au niveau de son passage, a dit, même si ça a quelques siècles.
Non, il y a beaucoup d'écrits sur elle, mais
Et les plus anciens écrits sur elle datent de quelle période, justement ?
Du Moyen-Âge, il y a une Vida, comme je te disais, qui est un écrit anonyme, où on dit que c'était une dame noble et belle, et prise de Rimbaud d'Orange. Et c'est tout. Mais cet écrit n'a pas de... On n'a pas de certitude qu'il soit exact ou qu'il corresponde à quelque chose de réel. Et en tout cas, il ne nous permet pas de situer la comtesse de Die au XIIe siècle, au XIIIe siècle, ni de situer sur Rimbaud d'Orange en particulier.
Donc on va revenir au livre proprement dit. Un livre qui est édité chez qui d'ailleurs ?
Alors c'est Catherine Flamand. Qu'on a rencontré à l'occasion d'un moment de lecture à Mosaïque. Elle venait présenter un livre qu'elle avait publié, c'était donc, ça fait à faire 2 ans maintenant, elle avait présenté un livre qui s'appelle « Vercors aux mille chemins », qui est une somme d'articles en fait et de, voilà, de témoignages aussi sur la figure de l'étranger dans le Vercors au long des siècles. Et cette femme nous a touchés, on a trouvé qu'elle était pleine d'énergie et de sensibilité. Et donc on l'a contactée à propos de notre livre qui était encore à ce moment-là en chantier et elle a répondu affirmativement tout de suite.
Un quart d'heure après.
Oui, un quart d'heure après. On lui a envoyé un mail et tout de suite après. Et puis on l'a revue et puis on a partagé avec elle. Elle est vraiment partie prenante de la jeunesse de notre livre en fait. Elle nous a beaucoup soutenue. Elle a été beaucoup touchée par notre propos justement en fait de ce froissement des temps, ce froissement des siècles, ce personnage féminin par le texte de Linette, par mes illustrations. Moi, elle m'a beaucoup incitée à découper, ça je le fais, mais elle m'a beaucoup incitée à déchirer le papier aussi, justement pour montrer le passage en fait, le fracas aussi, parce que ces passages sont pas silencieux en fait. Voilà, c'est le fracas, la déchirure et le.
Elle a beaucoup déliré sur le temps aussi, même la conception du temps. En physique quantique, et ça nous a beaucoup plu, ça nous a donné des ailes.
Oui.
Elle m'a demandé d'écrire beaucoup plus de personnages, de faire venir beaucoup plus de personnages dans l'histoire. Et ça a été un grand élan qu'elle nous a donné, aussi bien pour les illustrations que pour le texte.
Et puis on peut dire que le livre, on l'a vraiment construit avec elle, on a fait la mise en page avec elle. Et puis c'est une femme qui s'intéresse à beaucoup de choses, elle s'intéresse beaucoup à la calligraphie, à la typographie. Et du coup, elle nous a donné beaucoup de pistes et d'idées pour la mise en page. Et puis c'est une femme qui s'intéresse aussi au cinéma, donc elle a un petit peu imaginé une mise en page qui soit mobile en fait, où on se promène d'une page à une autre. Nous, on avait tendance à voir page après page. Et elle nous a invité à voyager plus et à développer le livre dans un mouvement en fait.
Un peu comme quand on monte un film. Quand on s'est retrouvés pour faire la maquette ensemble, on a travaillé sur les images et le texte avec des systèmes d'habillage et aussi avec l'idée d'une continuité. On se demandait comment le personnage se regardait l'autre à la page suivante et on a pu à ce moment-là découper le livre en chapitres avec des éléments homogènes qui correspondaient aux différents éléments. Par exemple, il y avait la ville ou la terre ou la Drôme ou les souterrains, et il y avait des éléments qui rappelaient ce passage de l'histoire. Et c'était passionnant, vraiment, de faire ce travail de découpage, de montage.
Il vous a pris combien de temps, ce livre, à le faire ?
2 ans, en fait. Linette a commencé le texte en novembre 2012, et moi, je l'ai laissé écrire un peu, et j'ai commencé en janvier 2013. Donc, on a vraiment fourni un travail en longueur, en fait, hein.
Et puis c'est un travail, vraiment un travail en concertation, non seulement entre Marie, Catherine Flamand et moi, mais aussi avec les personnes qu'on a fait rentrer dans l'histoire. On leur a vraiment demandé leur accord. Et on peut dire que ce livre reflète cet accord qu'il y a eu entre différentes personnes. Ce jeu, c'est un livre où on joue beaucoup.
Et vous avez parlé de Béatrice de Die avec toutes les personnes qui ont participé à ce livre ?
Bien sûr. Alors, on a parlé de Jacques Planchon, mais il faut aussi qu'on parle d'André Breton, parce qu'il nous a beaucoup, beaucoup soutenus et il a nourri notre imagination, parce qu'il est, comme tu disais tout à l'heure, historien autodidacte. Il avait beaucoup de choses à nous apporter, sa fantaisie personnelle aussi, en fait. Hein. Donc, on l'a vu à plusieurs reprises. Il est un peu comme un passeur dans le livre, comme un guide, en fait. Hein. Donc, il apparaît au fil des pages et il a pratiquement autant d'importance que Marche Laurier, finalement.
Et justement, quand vous en avez parlé avec les personnes, là, est-ce qu'elles avaient toutes une image assez similaire de Béatrix Teddy ? Ou chacun la voit vraiment différemment ?
À vrai dire, moi, je n'ai pas tellement parlé de Béatrix Teddy avec les gens que j'ai interviewés. J'aurais plutôt demandé quelles étaient leurs passions, comment était leur vie.
Qui ils étaient, eux ?
J'ai rarement posé la question sur Béatrix Teddy, mais on pourrait aussi te parler des gens, de tous les gens qui nous ont conseillés sur l'histoire.
Oui, parce qu'il y a autres... aussi Xavier Levet, qui est conseiller pédagogique, qui nous a beaucoup parlé du Moyen-Âge. Alors, pas de la comtesse Teddy, mais du Moyen-Âge et de comment était la ville au Moyen-Âge, en fait, hein, avec les places qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas en ce temps-là, avec les odeurs, avec la présence des animaux. Tout ça, c'était très intéressant pour nous.
Et puis, il y a des gens qui nous ont raconté des anecdotes sur le Diois d'aujourd'hui. Par exemple, Edmé de Robert. Il y a Alain Perrier, Hanchouk, qui nous a parlé de l'Occitan Diois. Il y a quelques mots, très peu, mais quelques mots d'Occitan que Hanchouk nous a permis de corriger. Jean-Claude Rouchouz, qui est naturaliste.
Alors, par rapport à l'Occitan, donc, tu parlais tout à l'heure des poèmes qui sont connus comme étant des poèmes de la comtesse. Il y en a combien ? 3 dans le livre, plus un poème de Rimbaud d'Orange. Alors, on les a mis en français, mais il y a un glossaire à la fin du livre avec la traduction de ces poèmes-là en occitan. C'est d'ailleurs plutôt le contraire. Ils ont plutôt été traduits en français, mais disons, on voulait montrer leur écriture en occitan. Et ça, on le trouvera à la fin de l'ouvrage, ainsi que des tas d'explications historiques sur certains mots qu'on a utilisés ou certains passages de l'histoire sur lesquels on est revenu dans le glossaire à la fin du livre. Donc, on espère qu'on vous a donné l'envie de lire, même si ça paraît complexe ou dense. En fait, moi, je l'ai relu hier soir, ce livre, et je peux vraiment dire que l'histoire, elle est fluide, en fait, elle est facile à on rentre facilement dedans, quoi. Voilà, et on espère vous inviter à voyager comme nous on l'a fait en écrivant et en illustrant ce livre.
Alors, je vous rappelle, pour la sortie de ce livre, qui est sorti aujourd'hui des imprimeries, c'est ça ?
On a été le chercher chez notre éditrice, donc Catherine Flamand du comptoir d'édition. On a été le chercher hier, donc il était tout chaud, tout frais, parce qu'elle-même avait été livrée par l'imprimeur 2 jours avant. Et donc, on est en possession des livres là. Donc, on a prévu, pour tous les gens qui ont souscrit, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens de Die et d'ailleurs qui nous ont soutenus dans notre travail, en souscrivant au livre, donc en l'achetant à l'avance pour une somme plus modeste, pour 15 euros au lieu de 20 euros, parce qu'il sera vendu à 20 euros. Donc, on a prévu au Café Voltaire, mercredi, une distribution du livre à tous nos souscripteurs.
De 4 heures à... De 16h à 18h30.
Voilà.
Mercredi, qui sera le
26.
Et puis, vendredi, on présente le livre à la librairie Mosaïque, qui nous a soutenus aussi, en nous achetant des livres et puis en nous conseillant. On est toujours beaucoup en relation avec la librairie Mosaïque. Et donc, on présente notre livre avec des lectures vendredi, ce vendredi 28 à 17h30.
Et on peut aussi te dire qu'il y aura une exposition des illustrations originales avec quelques extraits du texte à la médiathèque en février pendant 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles il y aura différentes interventions. Une intervention de Jacques Planchon qui va parler des récentes découvertes archéologiques auxquelles il est fait allusion dans le livre. Il y a au moins deux objets qui sont dans le livre. C'est une otepsa, une sorte de samovar, et aussi les coquilles Saint-Jacques qui ont été retrouvées, auquel je donne une explication. On va voir si c'est une bonne explication ou pas.
On attend les résultats des analyses scientifiques.
Ouais. Et peut-être qu'on fera aussi des
animations.
Ateliers.
Donc, Linette fera un atelier d'écriture et moi, je ferai un atelier d'illustration.
Et de papier découpé et déchiré.
Ouais.
Voilà. Et Linette, vous avez des activités annexes par rapport à l'écriture ou, vous faites des choses sur dit qui permettent de communier avec d'autres personnes, d'avoir...
C'est la première fois que je fais un travail sur dit, mais j'aime bien travailler à partir d'images. J'ai déjà écrit à partir d'images, et cette fois-là, c'était le peintre, un peintre du Var, qui avait commencé à peindre, et j'avais écrit des histoires qui ont été publiées dans la revue Saprophage. Ou alors, j'aime bien écrire à partir de réalités humaines, un peu comme je l'ai fait en interviewant les Diwa, c'est-à-dire que j'ai écrit une série de portraits dans Politis, et à partir du thème de la double culture.
Et Marie ?
Eh ben moi, j'ai fait plusieurs livres donc, sur le Diwa. Et puis, celui-là, j'ai un petit peu envie de dire que c'est le plus abouti parce que c'est celui dans lequel je me suis le plus engagée, investie. Et puis aussi, avec Linette, il y a eu ce fantastique travail de collaboration et d'échange autour de ce livre. Et puis, bon, j'anime des ateliers aussi d'art plastique hein, parce que moi, c'est l'image qui est au cœur de ma vie, au cœur de mes doigts. Et donc, j'aime bien transmettre cette passion-là, ce désir-là. Donc, j'anime avec différentes sortes de publics, des ateliers d'art plastique.
Et en perspective, un nouvel ouvrage encore ?
Alors là,
on a des tas d'idées.
On a des tas d'idées, oui.
Peut-être qu'on les dira.
On
les
dira,
oui,
dans une prochaine émission. Mais c'est vrai que on est parti là pour continuer le travail.
Toujours un peu dans un domaine historique ou quelque chose de plus contemporain ?
Non, moi je pense que je vais à nouveau refaire un livre pour enfants après parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup.
Eh bien, Linette et Marie, merci d'être passées. Et donc, je vous rappelle, une distribution du livre au Café Voltaire, mercredi de
16h à 18h30.
Voilà, et une présentation à la librairie Mosaïque, vendredi 28.
À 17h30.
Eh bien, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Interview.
Hey, the bird.